enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Deuxième phase, c'est la phase de stabilisation. La phase de stabilisation. C'est la deuxième phase. Phase de stabilisation, on va lire Galates 6, verset 7. C'est là où ce principe va s'appliquer. 7 et 8, d'ailleurs. Là, c'est l'idée, l'avion a décollé, mais il n'a pas pris d'altitude. Un décollage, ce n'est pas une prise d'altitude. Un décollage, c'est simplement enlever les roues, en quelque sorte, de la surface du sol. D'accord ? L'avion est porté par l'air. Il n'est plus porté par les roues. Donc, l'église a décollé, ok. Maintenant, il va falloir qu'elle prenne de l'altitude. Et là aussi, ça va demander une énergie énorme. Si vous êtes monté dans les avions, vous êtes tous montés dans les avions, vous savez très bien qu'au départ, l'avion est sur la piste, il roule, il prend de la vitesse, et au bout d'un moment, il commence à s'élever du sol. Mais là, il n'a pas atteint son altitude. C'est la première phase que nous avons vue, si nous y arrivons. Après, il y a cette phase où l'avion va d'un seul coup monter comme ça pour acquérir de l'altitude. Acquérir de l'altitude. Et ça, c'est vraiment la phase de stabilisation. Alors, regardons ensemble. Le principe ici, tout à l'heure, c'était l'enfantement. Vous vous rappelez, hein, on avait lu Galates 4, verset 19, je vous rappelle, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, ok, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Là, c'est l'autre principe, c'est ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Alors quand vous lisez faire le bien, c'est de faire la bonne chose. C'est ça, comme ça qu'il faut voir. C'est pas simplement faire une bonne action, je donne 3 $ à un mendiant. C'est pas ça. C'est pas ça qui veut dire ici. Faire le bien dans le sens de continuer à pratiquer les lois du royaume de Dieu. D'accord ? Ne nous lassons pas de continuer à pratiquer la parole. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. C'est-à-dire, pratiquons les lois du royaume envers tous et surtout envers les frères en la foi. Là, c'est une phase donc de stabilisation, donc l'Église va commencer à prendre de l'altitude. Alors là encore, elle va faire plus de distance, hein. C'est le même principe. Tant que l'avion est sur la piste, il est à l'arrêt. Il met toute son énergie, il met énormément d'énergie, et qu'est-ce qu'il fait? Il décolle à peine et il fait peu de distance. Là, il va continuer, l'avion va commencer à prendre de l'altitude, l'église va prendre de l'altitude. Et là encore, il y a une énergie énorme à donner. L'avion donne énormément d'énergie pour prendre de l'altitude. Tant que l'église n'a pas pris d'altitude, ce n'est pas une église établie. Beaucoup de gens démarrent des églises et disent, voilà, nous avons une église, mais il y a une différence entre démarrer une église et établir une église. C'est très différent. Beaucoup d'églises ont été démarrées, extrêmement peu d'églises sont établies. Ça, c'est un problème que nous voyons parmi la plupart des églises. Des églises, hein, il y en a partout. Il y a des coins, hein, on était dans le Texas là, il y a quelque temps, il y a des églises partout. Au Burundi, maintenant, ça pousse comme des champignons, les églises. Comme au Congo. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut faire des églises. C'est stupide, d'ailleurs, parce qu'on viole des principes du royaume de Dieu. Ce qui fait que la plupart de ces choses qu'on appelle église ne sont pas de vraies églises. Parce qu'elles n'ont pas été initiées par Dieu, mais par des hommes. Ce qu'on a vu hier. Et donc, elles ne pourront jamais décoller. Maintenant, vous êtes dans la volonté de Dieu, le Seigneur vous montre de démarrer une église. Okay, vous démarrez une église, mais démarrer une église n'est pas établir une église. Il y a une grande différence. Établir une église, c'est quand on a déjà de l'altitude et qu'on reste en altitude. On démarre l'église. On est dans la phase de démarrage, on peut louper et on peut échouer et rester dans l'échec pendant des années et des années. C'est ce que la plupart des églises font. Maintenant, on peut décoller, mais il va falloir se stabiliser. Donc, prendre de l'altitude jusqu'à temps d'avoir une certaine altitude. Et c'est là où, quand on a de l'altitude, c'est là où on fait le plus de distance avec le moins d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que les avions gagnent de l'altitude, parce qu'ils ont moins d'attraction, et c'est là où ils utilisent moins d'énergie pour faire le plus de distance. Et la majorité de la distance qu'un avion fait, un avion supersonique, il le fait à 10 km de haut, à 10 000 mètres d'altitude. Pourquoi ? Parce que c'est là où ils ont calculé que c'est le meilleur endroit pour un avion pour faire le plus de distance en utilisant le moins d'énergie. Et ça doit être le cas pour une église locale. Mais en attendant, il faut arriver à cette phase de stabilisation. Alors cette phase de stabilisation, en général, ça dure 7 à 8 ans, en général. Pour une église qui vraiment avance correctement. 7 à 8 ans. 7 à 8 ans, phase de stabilisation. Alors, le principe ici, c'est que si on veut voir l'église grandir, le principe est très simple, mais c'est très important pour le pasteur. L'église qui grandit dans cette phase-là, c'est parce que le pasteur grandit. Je répète, si le pasteur grandit, l'église va grandir. Là, ça va être un temps très fort pour le pasteur. Parce que le pasteur a réussi à faire décoller l'église. Maintenant, il doit acquérir de l'expertise sur son ministère. Et ça, c'est une grande difficulté chez la plupart des pasteurs. Ils ont commencé à décoller, ok, bon, ça va mieux. On commence à avoir un certain nombre de gens dans l'église, 70, 80, 100 personnes, ok, d'accord. Mais l'église n'est pas encore du tout établie ou même stabilisée. Et là, le serviteur de Dieu, il va y avoir un énorme travail sur le leader. Parce que c'est le leader qui amène l'église vers la maturité. Ça, il faut le savoir. C'est un principe. D'ailleurs, Maxwell l'enseigne très bien. Et il dit, d'une manière générale, si vous voulez faire grandir une organisation, il faut faire grandir le leader. Et c'est vrai pour l'église de Dieu. Plus le pasteur Denis grandira dans son leadership, plus il amènera votre église dans les hauteurs. Et c'est une grande responsabilité que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas. Beaucoup de pasteurs pensent que bon, il y a juste à prêcher le dimanche matin, on prépare un bon sermon, les gens sont bénis, gloire à Dieu, amen, tout va bien. Non. On peut avoir une grande foule devant nous et avoir une église qui est complètement de bébés spirituels ou de gens complètement charnels. Et ça n'amènera pas à avoir une église établie, du tout. Vous savez, il y a des gens parfois, parce qu'ils ont un grand charisme, on ne construit pas une église sur un charisme, sur un don. Ça, c'est le problème de beaucoup de ministères. Beaucoup de ministères construisent leur ministère sur leur don. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez quelqu'un qui a beaucoup de résultats dans la guérison, la personne va évangéliser, il va amener beaucoup d'âme au Seigneur. Mais s'il ne fait pas gaffe, d'ici quelques années, vous n'entendrez plus parler de cette personne. Moi, je connais des gens de qui on entendait parler quand on s'est converti, quasiment dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'ils sont devenus. Et des gens brillants. J'ai entendu parler un jour d'un pasteur, il passait à la télé, etc. Régulièrement, on le voyait, il traînait avec les plus grands serviteurs de Dieu du monde, de la planète. Cet homme avait réussi, il avait une église qui avait explosé d'un seul coup jusqu'à 10 000 personnes. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Vous savez, le ministère, ce n'est pas une petite affaire. Je tiens à vous alerter par rapport à ça. Donc là, dans cette phase, il faut que le leader grandisse. Il faut que le leader comprenne ce que c'est que le leadership. Donc là, il y a une immense responsabilité dans cette phase-là sur le serviteur de Dieu. Les choses, quand on est serviteur de Dieu, ne se passeront pas d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui pensent simplement « je prie et tout va se passer ». C'est faux, complètement faux. Ça, c'est une idée préconçue qu'on a souvent en tant que serviteur de Dieu qui est absolument fausse. Parce que l'Église, ce sont les gens. L'Église, ce n'est pas seulement prier pour les serviteurs de Dieu. L'Église, comme on dit en anglais, church is people. C'est l'Église, ça représente des gens. C'est pas des numéros. C'est pas un nombre de gens qui viennent. C'est pas une foule. L'Église, ce sont des personnes. Et une personne qui se sent vraiment à sa place dans une église locale, qui se sent bien, je dirais, bien soignée, bien entretenue, bien aidée. Une bonne église, c'est quoi finalement? Une bonne église, c'est comme un hôpital. Quelqu'un vient, il est dans le monde. Il entend parler de Christ. Sa vie d'un seul coup est bouleversée. On lui dit, tu sais, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Et d'un seul coup, ta vie peut être changée. Ton éternité, ta destinée éternelle peut être changée. Ça, c'est le message de base que nous devons apporter et sur lequel nous devons régulièrement insister. Les gens rentrent dans le royaume de Dieu. Ok. Ça, c'est notre rôle. Ils viennent donc dans l'église locale, d'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Une bonne église doit amener quelqu'un, quel que soit son don, que ce soit un don spirituel, que ce soit un don dans le naturel, une personne doit être amenée au travers de son église locale à l'épanouissement. Cette personne doit réussir sa vie. Et l'église, au travers du message de l'église et du serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu doit repérer, doit être un chercheur de dons chez les gens et les aider, leur dire, voilà, toi je vois que tu es vraiment destiné à ça, je vais tout faire pour t'aider, pour que tu puisses t'épanouir dans ton don. Spirituel ou naturel. Ça, ça doit être l'église de Dieu. C'est la vraie église de Dieu, ça. Si les gens ne s'épanouissent pas, les gens sont malheureux. Ils viennent à l'église et ils partent. Ils viennent à l'église, ils partent et l'église s'endort. Et le leader doit être quelqu'un qui doit repérer les personnes. Souvent, on a insisté que sur l'aspect spirituel. On va repérer si quelqu'un a un appel sur sa vie pour qu'il puisse être le pasteur assistant ou l'évangéliste du coin, etc., etc. Bon, ça c'est une partie, mais c'est pas tout. Loin de là. Parce que la majorité des gens n'ont pas d'appel pour prêcher. La majorité des gens ont des appels pour faire autre chose. Dieu a mis en eux des dons pour faire quelque chose. Et si le pasteur ne comprend pas ça, si le leader ne comprend pas ça, son église va plafonner. Il vient faire des belles réunions spirituelles et quand les gens sortent de l'église, ok, je suis on my own, comme on dit en anglais, c'est-à-dire je me débrouille. Et c'est fini. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de leaders font. Donc si le leader grandit et comprend que dans son église, il y a un potentiel extraordinaire, qu'il sait exploiter ce potentiel pour que les gens puissent s'épanouir, alors là, il est gagnant. Là, il va amener son église dans cette phase de stabilisation très rapidement. Les gens vont s'épanouir, ils vont se donner au Seigneur, ils vont expérimenter ce qu'ils doivent expérimenter spirituellement, remplis du Saint-Esprit, donc baptisés de l'Esprit, être touchés par l'Esprit de Dieu. Bon, certains vont s'engager dans différents départements de l'Église, mais d'autres qui n'ont pas ces dons-là, il va falloir les aider à trouver leur vocation. Et ça, c'est pour ça que le pasteur va devoir créer pas mal de départements dans cette phase. Mais on va revenir là-dessus. Donc d'abord, le pasteur doit faire une chose. Il doit étudier, et ça je vous encourage très fortement à le faire, les ministères qui ont réussi. Il faut étudier les gens qui réussissent. Si le pasteur s'entoure de gens qui sont dans l'échec, d'autres ministères qui sont dans l'échec, lui-même sera dans l'échec. Amen. Nous avons besoin d'être influencés par des gens qui ont réussi, des gens qui ont une grande vision. Mm-hmm. Moi, je me passionne à étudier les ministères parce que j'aime voir les gens qui ont réussi dans de grandes visions. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez toujours être tiré vers le bas. À chaque fois que vous allez avoir une idée, vous allez être entouré d'autres serviteurs de Dieu qui vont vous dire « Oh, tu sais, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. » Et constamment, tu es tiré vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Donc, ce qui fait que dans ton leadership, toi-même, tu auras du mal à t'épanouir. Donc, le pasteur doit étudier le leadership. Il doit étudier les principes du leadership à ce moment-là, dans cette phase particulièrement. Il doit passer du temps à étudier les ministères. Pourquoi un tel a réussi? Il doit visiter certains de ses ministères. S'il a la grâce, peut-être être proche de certains de ses ministères pour être mentoré par ces ministères-là. Parce que s'il ne le fait pas, il va rester toujours avec sa propre vision des choses et il va s'enfermer lui-même dans son échec. Ou dans, il va être bloqué quelque part. Il va être avec des couvercles, ce qui va l'empêcher d'aller plus loin. Et ça, c'est souvent le cas chez beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont dans l'échec très souvent vont critiquer très fortement les serviteurs de Dieu qui ont réussi. Vous les entendrez souvent critiquer les serviteurs de Dieu qui ont réussi. Souvent, ils vont dire « Ah, celui-ci, oui, oui, bof, oh, il parle que de l'argent, ou il est comme ceci, ou c'est psychologique, ou c'est... » Toutes sortes de trucs. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont dans l'échec et ils sont frustrés dans leur ministère. Donc, pour qu'un serviteur de Dieu puisse vraiment avancer, nous avons besoin des autres. Et là, dans cette phase, je vous dis, c'est très important que le pasteur grandisse. Grandisse, comprenne ce que c'est que le leadership réellement. Parce qu'on ne le sait pas, ce n'est pas inné en nous. On doit étudier le leadership. On doit savoir ce que c'est qu'un leader. On doit savoir comment être un bon leader et devenir un bon leader. Mais ça, ça prend du temps. Et dans cette phase, c'est très important. Il va falloir qu'il comprenne, après, pour analyser dans son ministère, qu'est-ce qui l'empêche le ministère, qu'est-ce qui met des couvercles partout dans son ministère pour l'empêcher à ce que son église grandisse beaucoup plus. Il doit se poser les questions. Et il doit vraiment demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux faire grandir ton œuvre, Seigneur ?» Ça, c'est vraiment la prière la plus importante qu'il doit faire dans cette phase de stabilisation. Parce qu'il doit chercher toujours à gagner de l'altitude. Et gagner de l'altitude, bah, c'est apprendre à être un meilleur leader. Parce que si lui, il grandit, il va amener les brebis à grandir. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un que vous enseignez à un niveau au-dessus du vôtre. Vous savez, dans l'enseignement, dans le monde séculier, on dit la chose suivante. On dit à un enseignant, il y a des enseignants ici qui enseignent dans les écoles secondaires ou primaires, non ? Voilà, ok. Bon, dans l'enseignement, on dit la chose suivante. On dit, faites attention, on dit toujours aux enseignants, faites attention parce que au bout d'un moment, vous allez acquérir le niveau de vos élèves. Ça veut dire que si vous enseignez dans le primaire, on vous a... Non, mais c'est normal. Parce que vous faites des études, vous faites des licences, des maîtrises, des doctorats. En hébreu et en grec, en latin. Et en fait, pendant un temps, on étudie. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, donc, on augmente notre connaissance. Mais après, on va enseigner à un niveau qui est beaucoup plus faible. Et si on enseigne à un niveau beaucoup plus faible et qu'on reste sans régulièrement renouveler nos connaissances, on acquiert le niveau des gens qu'on enseigne. C'est un principe là. Et le pasteur, c'est la même chose. Plus il est élevé spirituellement, plus il tire sa congrégation. Moins il comprend de choses spirituellement parlant, moins il peut amener la congrégation à comprendre les choses spirituelles. Ça, c'est normal. Donc, il y a un travail énorme à faire là-dessus. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprennent pas ça. Donc, ils restent à un certain niveau. Ils ne s'intéressent pas au ministère qu'on réussit. Ils ne se demandent pas pourquoi certains ont réussi, pourquoi d'autres ont échoué, etc., etc. Et il y a un travail énorme à faire à ce moment-là sur le serviteur de Dieu. J'insiste beaucoup parce que c'est très important. J'espère que le message passe. C'est des choses que vraiment j'ai découvertes et vraiment difficiles. Alors, là aussi, maintenant, on va parler de l'aspect des invités. Alors, dans une église, il y a un temps où on doit avoir des invités. Et ces invités, il faut faire très attention. Parce que vous savez, il y a des églises qui fonctionnent seulement avec des invités. C'est-à-dire des gens, on invite un pasteur, on invite un serviteur de Dieu et on veut un séminaire ceci, on veut un séminaire cela. Et en fait, le pasteur doit être très sensible à cela. D'abord, il faut que vous sachiez que vous aurez très rarement des invités qui ont des grosses églises qui viendront vous visiter si vous avez une petite église. Je tiens à vous le dire. C'est très difficile, ça, je tiens à vous le dire. D'avance. La première chose que les grands pasteurs vous demanderont, vous avez combien de personnes dans votre église ? Parce que peu comprennent cet aspect d'aider d'autres dans les œuvres de Dieu. La plupart des gens qui sont des pasteurs très connus, ils ne viendront pas dans des petites églises parce qu'ils estimeront qu'ils perdent leur temps. Et ça, je pense que c'est une erreur de beaucoup d'ailleurs. Ils veulent aller là où il y a quelqu'un qui a une église de 5000, il ira dans un pasteur qui a un de ses amis qui a une église de 5000 ou 3000, ou, etc. Rarement, ils voudraient venir dans une église où il y a 40 personnes. Donc c'est très difficile pour quelqu'un qui démarre une église d'arriver à inviter des serviteurs d'un certain calibre. Entre guillemets. Il y a un certain orgueil, hein, je tiens à vous le dire. Pas, mais ça, non, mais je tiens à vous le dire. Moi, je constate, hein, c'est clair. Je tiens à vous le dire. Hein. Il y a des gens qui veulent une grande foule, sinon ils ne viennent pas prêcher. Hein. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que des fois, il y a des, entre guillemets, des petits qui commencent et qui un jour deviendront beaucoup plus grands qu'eux. Ça, ils ne le savent pas. Et ça, c'est dommage. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ne viennent pas et des années plus tard, ils disent « Ah, maintenant que tu as 3000 membres, je viens te voir. » Je veux être invité par toi. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est quand vous démarrez des églises, quand il y a vraiment un appel de Dieu et que c'est vraiment la volonté du Seigneur, c'est là où on a besoin le plus d'aide. Mm-hmm. C'est là où on a besoin le plus. C'est vrai qu'après, on peut faire des séminaires à plus haut niveau, mais c'est là où on a besoin du plus grand aide. Parce que quelques années plus tard, quand quelqu'un vous a beaucoup aidé, un autre pasteur vous a beaucoup aidé, vous savez que vous êtes reconnaissant par rapport. Et vous considérez comme un père spirituel, vous considérez comme un mentor, et vous avez confiance en lui, vous avez créé une relation avec lui. Et ça, ça demande du temps. Vous savez, les relations dans le ministère, c'est quelque chose qui est très important. Au début, les gens disent « Non, 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 moi je travaille tout seul, je fais mon truc tout seul. » Oui, d'accord, mais au bout de 10 ans, tu diras plus ça. Ou alors tu seras mort. Les relations, c'est indispensable. Alors, les invités, il faut être très sensible. Parce qu'il y a des gens, moi je connais certains pasteurs même qui démarrent des églises, qui n'arrêtent pas d'avoir des invités dans leurs églises pour le dimanche. Un pasteur qui démarre une église, il doit prêcher au moins 3 fois, si ce n'est pratiquement 4 fois par mois. De temps en temps, il peut avoir des invités. Mais c'est lui qui fait son église. C'est au pasteur de l'église locale de faire son église. C'est à toi, Denis, de faire ton église. De donner le message de ton église. Que tu aies des invités, c'est bien, mais tu ne dois pas avoir des invités une fois sur deux ou même une fois sur trois. ça doit être un certain nombre de fois par an, etc., où vous ciblez un certain nombre d'invités pour faire soit un séminaire, soit quelque chose de spécial. Mais c'est le pasteur qui fait son église. Il y a des pasteurs qui n'arrêtent pas de compter sur leurs relations pour que les autres viennent prêcher à leur place, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que justement, c'est le pasteur qui doit faire son église. Sinon, les gens s'habituent toujours à avoir des nouvelles têtes, et ce n'est pas une bonne chose. Le pasteur doit construire son église. C'est à lui de construire spirituellement son église. Bien sûr, il doit être invité. Alors, il y a des invités qui sont... il faut vraiment prier par rapport aux invités. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas le fait d'avoir des invités qui vous amènera du monde. Il y a beaucoup de pasteurs qui pensent que le fait d'avoir beaucoup d'invités, ça va leur amener du monde. C'est faux. Il y a des fois où on peut faire des séminaires où vraiment ça va être le temps de Dieu avec la bonne personne. Et d'un seul coup, ça va apporter un gros plus pour l'église. Et il y a des moments, ce n'est pas le cas du tout. Vous avez des gens qui, à la limite, vous mettent par terre certaines choses que vous êtes en train de construire dans l'église. Donc il faut être très prudent par rapport aux invités. Pas faire n'importe quoi et pas inviter n'importe qui. Alors, dans cette phase aussi de stabilisation, il y a cet aspect des divisions. Il y a beaucoup d'églises qui se divisent à ces moments-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pression. Là où vous aurez le plus de pression, c'est dans cette phase de stabilisation. Pourquoi ? Parce que le diable va voir que vous commencez à prendre de l'altitude et il va tout faire pour casser l'église. Tout faire. Il essaiera de passer par tous les chemins. Alors, ça peut être par la famille du pasteur. Ça peut être par les finances. Ça peut être par le gouvernement, parfois, certains gouvernements qui créent des histoires, et d'un seul coup, il y a une porte ouverte, et boum, le diable se sert de ça. Ça peut être par la santé. Ça peut être par toutes sortes d'attaques. D'accord ? Donc là, le pasteur, avec sa famille, doit veiller très, très sérieusement. Et là, il va subir des moments très difficiles, souvent. Mais ça dépend. Des fois, c'est dans la famille. Des fois, c'est dans les finances où il passe par des moments extrêmement difficiles. Des fois, c'est le gouvernement qui crée des histoires épouvantables à l'église, comme par hasard. Des fois, c'est dans la santé d'un des deux, dans la famille, etc. Des fois, directement, c'est un problème de division dans l'église où des gens commencent à miner tout un terrain contre le pasteur dans l'église. Donc là, il faut faire attention. Et ne dites pas « ça n'arrivera pas », ça arrivera. Ne vous faites pas d'illusions. Si vraiment vous faites l'œuvre de Dieu, il y a de la persécution, sachez-le. Il y a de la persécution, sachez-le. Le diable ne vous fera pas de cadeau. Le diable ne fait pas de cadeau. Le diable laisse tranquille les gens qui dorment. Les églises qui dorment, il les laisse tranquilles. Les églises qui bougent, il tape dessus. D'accord ? Et c'est là où vous serez secoué dans vos fondations, dans votre engagement avec le Seigneur, dans votre amour pour le Seigneur, dans toutes sortes de choses, dans votre foi, etc., etc., etc. C'est là où nous sommes éprouvés très, très sérieusement et nous sommes terriblement attaqués. Il y a de grandes pressions à ce moment-là, surtout sur la famille pastorale. Il y a de grandes tentations aussi. Faisons bien attention à cela, parce que quand nous attaquons le monde spirituel, le diable vient et essaye absolument de démolir la tête. S'il arrive à démolir la tête, le corps souffre, c'est clair. C'est le principe qu'il utilise toujours. C'est-à-dire, si le diable arrive à démolir le leader, ou à mettre en scandale le leader, à ce moment-là, c'est tout le corps... qui souffrent. Donc, il faut faire très attention. Il y a des moments de pression terrible dans ces moments-là sur le pasteur. Il y a des gens qui vraiment révèlent à ce moment-là leur ambition personnelle. Ils diront, mais pasteur, ça fait 5 ans que je suis avec toi, nous avons commencé ensemble, je veux que tu me reconnaisses comme pasteur, deuxième pasteur ou xième pasteur, etc., etc., publiquement. Et le pasteur principal dit, non, je ne sens pas ça dans mon cœur pour l'instant. Et l'autre commence à faire des histoires, parce que vous lui avez donné des responsabilités. Souvent c'est le cas, sachez-le. Les gens qui vous donnent des responsabilités, parfois ne sont pas tendres avec vous. Et c'est parfois cela qui crée des histoires. Il y a beaucoup de problèmes aussi avec les responsables des groupes de louanges. Il faut que vous soyez très prudents par rapport à ça. Ça, je tiens à vous le dire, ce sont des gens qui souvent, comme on les voit, les responsables des groupes de louanges, on les voit la moitié du temps dans les réunions d'église quasiment. Donc vous mettez quelqu'un qui dirige une réunion, à peu près un peu moins de 50% du temps. Cette personne, il faut qu'elle soit la plus fiable possible. Parce que si vous la mettez, si c'est quelqu'un, vous mettez comme ça dans une position, parce qu'il chante très bien, parce qu'il est doué, parce que peut-être il est sensible au Saint-Esprit, c'est très bien. Mais faites attention qu'il ait le caractère. Il soit ultra fidèle au pasteur. Pourquoi ? Parce que un des plus grands pièges, rappelez-vous que le diable, avant sa chute, il est clair, d'après l'Écriture, qu'il était responsable de la louange et de l'adoration. Le diable a utilisé beaucoup la musique pour polluer le monde. Aujourd'hui, le corps de Christ a repris vraiment cet aspect musical, et on peut dire qu'aujourd'hui, les productions musicales qui sont faites par certaines églises sont absolument d'une qualité exceptionnelle. Amen. Mais c'est très récent. C'est très récent, c'est absolument exceptionnel. Parce que l'onction rehausse tellement les dons musicaux et vocaux des gens qui dirigent, la présence de Dieu amène tellement dans ce domaine-là que franchement, quand vous regardez certains DVD de Hillsong, entre autres, ou d'autres trucs comme ça, c'est vraiment absolument exceptionnel. Dans tous les domaines, qualité spirituelle, qualité profondeur, donc aussi musicale, vocale, qualité technique, vraiment, c'est le top. Même les païens, quand on regarde des concerts païens, ils n'arrivent pas à la cheville aujourd'hui de certains groupes chrétiens, il faut dire. Au niveau qualité, au niveau... franchement, c'est devenu exceptionnel. Et gloire à Dieu pour ça. Mais il y a un retour. Attention. Vous laissez quelqu'un qui va diriger. Et cette personne ne comprend pas une chose. C'est qu'elle bénéficie de l'onction pastorale. Et ça, souvent, les responsables de louange ne comprennent pas ça. Donc ils sont là, ils démarrent, ils sont tout petits, ils font pas de bruit. D'un seul coup, le pasteur repère que super pianiste qui commence à jouer. Waouh! Il dit, waouh, j'ai besoin de quelqu'un pour diriger la louange. Et le pasteur dit, voilà, je te mets là pour diriger la louange. La personne commence à diriger la louange, et au bout de 6 mois, 1 an, elle entend toutes les louanges en disant, mais c'est super ce que tu as fait ce matin, on était dans la présence de Dieu, j'ai été béni, etc. Il commence à entendre plein de louanges. Le problème, c'est que s'il n'a pas fait grandir son caractère en même temps que son don, là, le diable ira toquer à la porte. Et croyez-moi que souvent, c'est un des grands problèmes qu'il y a. Donc la personne voit, elle entend plein de louanges, elle sent vraiment qu'elle est portée par la présence de Dieu. Vous savez, quand vous écoutez même les plus grands chanteurs que nous aimons, que nous écoutons bien. Tiens, un jour, j'écoutais un Darlene Zerch chanter là, en répétition. Il y avait un truc là sur un DVD, il y avait un petit truc à part là où on regarde certaines répétitions qu'ils font, etc. Bah, toute seule, elle n'a pas une voix exceptionnelle. Hein. Étonnamment, non mais étonnamment. J'étais étonné, hein. Sans tous les effets, les micros et surtout l'onction, ben elle n'a pas une voix exceptionnelle. Bon, elle chante bien, mais pas une voix exceptionnelle. On ne pourrait pas dire par rapport à quand elle dirige la louange, ça n'a rien à voir. Vous voyez? Et sachez que ces gens-là, sans l'onction, ils ne sont pas grand-chose. Maintenant, quand l'onction les saisit, waouh! Et donc, ils amènent le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et très souvent, le peuple de Dieu voit ces gens-là. Et ils ont les yeux sur ces gens-là. Et c'est là où souvent c'est un piège pour le pasteur. Donc le pasteur doit être très prudent, parce que c'est dans ce moment-là, dans cette phase de stabilisation, où il a commencé à trouver des dons dans son église. Mais dons sans caractère, c'est une catastrophe. Ne mettez jamais quelqu'un dans une position qui n'a pas un caractère dont vous êtes sûr. Si vous faites ça, c'est la porte ouverte au problème quand il y aura des pressions. C'est par ces gens-là que les pressions vont venir. Ça, je tiens à vous le dire. C'est connu. Mais souvent, on se fait avoir, parce qu'on a un tel besoin de gens qui doivent servir dans l'Église. D'accord? Donc faites très attention à ça. Regardez plus le caractère que le don. Il vaut mieux quelqu'un de moins doué, avec un caractère vraiment soumis, souple et corrigible, plutôt que quelqu'un qui est très doué, qui a un caractère où il y a une pointe de rébellion. Parce que cette pointe de rébellion, au bout d'un moment, elle deviendra une montagne de rébellion. Et là, ça vous crée une division dans l'Église. C'est connu, ça s'est vu des centaines de fois. Je ne vous dis pas des histoires qui sont passées une fois ou deux. Je vous dis les choses sur l'histoire de l'Église. On doit apprendre. Et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. D'accord? Donc, il y a vraiment, comment dire, il y a un travail dans cette phase de stabilisation, de placer donc des bonnes personnes, d'accord? Mais bon, là, on commence à voir, au bout de quelques années, vous avez amené des gens à Christ, les gens commencent à mûrir. Ok, ça c'est bon. Ça commence à avancer. Et ces personnes-là, vous devez les repérer petit à petit. Il y a à se corriger. Vous savez, si un leader fait une erreur, il perdra des gens. Vous pouvez être un grand pasteur avec une grande église. Si vous tombez dans le péché, vous perdrez des gens souvent. Mais c'est Dieu qui vous corrige. Rappelez-vous, les brebis ne peuvent pas corriger le berger. C'est Dieu qui corrige le berger. D'accord? Ça, c'est un principe important. Mais souvent, les brebis cherchent à corriger le berger. Et quand les brebis commencent à vouloir corriger le berger, ils violent une loi spirituelle et l'église entière s'ouvre à des choses diaboliques. Charnel au départ et diabolique après. Et c'est là où la plupart des églises tombent. Donc c'est pour ça que les brebis doivent toujours comprendre qu'elles doivent protéger leur pasteur. toujours protéger le pasteur. Et dans cette phase-là de stabilisation, il y a beaucoup de secousses. L'Église va passer par toutes sortes de secousses, toutes sortes d'attaques. Des gens qui viennent, par exemple, dans l'Église, qui sont comme des petites brebis, mais ce sont des loups. Et ils viennent pour une chose, c'est pour aller piquer une bonne partie des gens et les amener dans des trucs catastrophiques. Quelques années plus tard, c'est la catastrophe. Et le pasteur doit intervenir dans ces cas-là. Malheureusement, parfois, il n'a pas vu ça directement. Il a quelqu'un qui vient, qui semble être formé, il dit « Ouf, de temps en temps, je vais pouvoir prendre 2 semaines de vacances. Oh, » Après 5 ou 6 ans de boulot acharné, il part un peu de son église, il laisse la direction à cette personne qui paraît fiable, la personne prêche 2, 3 fois, 4 fois, le pasteur revient dans l'église, et d'un seul coup, il sent que l'ambiance n'est plus la même. Et il se retrouve d'un seul coup à avoir creusé une partie de sa tombe. Et son église commence à être déstabilisée. Quelque temps après, le gars avait créé un groupe et il est prêt à partir avec un quart de l'église ou la moitié de l'église. Et dans ces phases-là, c'est courant. Donc soyez prudents. Vous savez qu'aux États-Unis, il s'est passé plusieurs fois les choses suivantes. Le pasteur partait en vacances. Denis, tu pourras partir en vacances, mais je vais t'expliquer comment faire. Le pasteur part en vacances avec sa famille, il revient. Et on lui dit, désolé, vous n'êtes plus pasteur de cette église. Il y a quelqu'un d'autre à votre place. Le conseil a voté que, boum, et il se retrouve par terre. Et ça s'est passé aux États-Unis, plus d'une fois. Des gens qui se sont retrouvés comme ça. Vous savez, des fois, les gens ne sont pas très tendres. Hein. Bon, alors, là, dans cette phase, il va falloir mettre en place les départements de l'église. Au début, on a bricolé un peu, pendant 2-3 ans, c'est normal. Hein. Au début, on bricole. On est passé par Bouyenzi, pour ceux qui connaissent. Puis ensuite, le pasteur, là, doit sérieusement établir les départements de l'Église. Les différents départements. Évidemment, le département louange, je vous rappelle, c'est le département le plus difficile à mettre en place. C'est, dans une Église, le département louange, c'est le département le plus délicat et le plus difficile. C'est celui où il y a le plus de tentations, de problèmes. Vous retrouvez des jeunes filles qui chantaient bien, qui d'un seul coup ont un gros ventre, on ne se demande pas pourquoi. Vous retrouvez des histoires de garçons bizarres qui sont dans le péché aussi, qui chantaient très bien, qui étaient dans le groupe de louanges en train de faire « Alléluia !» comme ça, tout ce que vous voulez, etc., etc. Ça se passe, oui, chers amis, ça se passe, malheureusement. Ce n'est pas chose unique, ça se passe à droite et à gauche. C'est un département où les gens sont très tentés. Il y a des gens qui veulent faire partie de la louange et de l'adoration. Vous avez 400 ou 500 personnes et les gens sont devant. Et on repère ces gens-là. Oui, on les repère, pour le bien et pour le mal. Vous ne vous faites pas d'illusions. La chair, c'est la chair. Et là, le pasteur doit créer des équipes. Alors, lui-même, si le pasteur est un bon leader, il sera respecté. Le respect n'est pas un titre. Le respect, ça se gagne pour un leader. Plus le pasteur investit chez les gens, plus cet investissement va revenir vers lui. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Galates 6, 7. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'investissent pas chez les brebis. Ils prêchent juste et bye. C'est fini. De temps en temps, un petit conseil, etc. C'est pas du tout ça. Il y a beaucoup plus à faire. Quand vous commencez à investir chez les gens, vraiment à les aider, leur montrer que vous les aimez, sincèrement, que vous voulez le meilleur d'eux, et vous cherchez à produire le meilleur, c'est-à-dire qu'ils deviennent de bons arbres. Vous faites tout ce que vous pouvez en tant que pasteur pour aider vos brebis à ce qu'elles s'épanouissent un maximum. Ces gens-là, vous feront tout. Vous les amènerez où vous voudrez après. Comme vous voudrez, vous les amènerez dans votre vision sans aucun problème. Mais ça prend du temps d'investir chez les autres. Et des fois, on est déçu, des fois, on investit, puis c'est des gens qui ne sont pas fiables, des gens qui ne produisent pas. Mais ça prend du temps d'investir chez les autres. Okay? Donc là, il va falloir investir pour mettre les départements en place, pour repérer les bonnes personnes, pour organiser l'Église. Plus vous réussirez à faire des choses en tant que pasteur, plus les gens auront du respect pour vous. Par exemple, les pasteurs, c'est courant, ils font une offrande pour acheter tel ou tel instrument de musique et vous ne voyez jamais l'instrument de musique dans l'église. Ça leur pose un problème. Après, les gens ne les respectent plus, ces gens-là. Vous voyez ? Tout ce que le pasteur dit, il faut absolument que ça s'accomplisse. Si le pasteur est un beau parleur, les gens le sauront tôt ou tard. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Moi, j'ai vu des pasteurs raconter des histoires, mais toutes sortes d'histoires. On va gagner 1 million d'âmes pour le Seigneur. Ils ont 300 personnes dans leur église. Et puis, ils ne gagnent jamais 1 million d'âmes pour le Seigneur. Ils font des déclarations. On va être sur les télévisions. On va faire ceci. On va faire cela. Le Seigneur m'a dit que. Ce Seigneur m'a dit que. Un pasteur doit faire très attention. S'il dit le Seigneur m'a dit que, il a plutôt intérêt à être sûr que le Seigneur lui a bien dit. Parce que les gens vont croire la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et au bout de la quatrième, la cinquième, ils vont commencer à perdre confiance. Une relation entre le serviteur et les brebis, ça se crée. Un respect, ça se crée. Et ça ne se crée pas en 3 minutes. Ça se crée au fil des années. Par contre, une fois qu'il y a vraiment un respect, non pas un respect parce que c'est le respect du chef, d'accord ? C'est pas ça le respect. Ça, c'est pas le respect selon la Bible. Ça, c'est le respect selon le monde. T'es le chef, donc je dois te respecter. Hein ? Ça, c'est les gens qui vous feront des courbettes par devant et qui vous planteront un couteau dans le dos par derrière. Voilà. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir avec vos leaders. C'est ce qu'on voit souvent. Le vrai respect, ça se gagne. Ça se gagne parce que quelqu'un dit quelque chose et ça s'accomplit. Quelqu'un dit, voilà, un leader dit, voilà, voilà ce que le Seigneur m'a montré. On fera ça, ça ne se fera peut-être pas tout de suite. Moi, je le dis souvent. Vous savez, quand moi, par exemple, dans mon église, je dis, le Seigneur m'a dit que, c'est que je suis sûr que le Seigneur m'a parlé très clairement. Sinon, je dis plutôt, j'ai à cœur de, je ressens que. Je sens qu'on va, on doit aller dans cette direction. Et souvent, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Mais je préfère pas utiliser trop cette expression, le Seigneur m'a dit que. Parce que quand tu fais ça, et que ça ne s'accomplit pas, les gens disent, mais c'est bizarre, le Seigneur lui avait parlé. Alors là, et là, c'est le serviteur de Dieu qui se discrédite. Donc, quoi qu'on fasse en tant que serviteur, il faut absolument être des gens de parole. Et on a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas des gens de parole. Ils vous annoncent des trucs, ils vous disent des trucs qui sont faux. Ou ils vous disent ça dans la chair. Et quand les gens disent des choses dans la chair, il n'y a pas de fruit. Par contre, quand c'est vraiment dans l'esprit, que les gens voient de leurs yeux ce que vous leur avez dit avant, ils disent « Waouh !» Celui-ci, là, on peut vraiment le suivre. Et quand ils vous suivent, vous les amenez partout. Vous les amenez dans les plus grandes visions. Vous les amenez dans l'impossible. Ça, c'est un principe de leadership. C'est vraiment dans ces moments-là où vous serez testé. Et Dieu vous testera. Quand vous êtes leader, Dieu vous teste. Vous dites une chose, et si tu dis « Le Seigneur m'a dit que », ou si tu ne dis pas exactement ce que le Seigneur t'a dit, fais attention. Parce que ce que tu sais, tu récolteras. Pas tout de suite, mais plus tard. Et les gens verront qu'ils ne pourront pas te faire confiance. Et croyez-moi, un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu, les gens doivent avoir confiance en lui. S'il dit quelque chose, ça doit se passer. Si ça se passe, les gens sont super contents. Et là, ils viennent te voir, dire « Pasteur, vraiment, merci. On a été tellement bénis avec ça. Merci d'avoir fait ça pour nous, etc. etc. » Et là, vous gagnez en influence d'une façon incroyable. Mais ça, ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Je vous donne des clés ici, des clés qui sont super, super importantes. Alors, le pasteur donc doit devenir un bon navigateur. Un bon navigateur. Un bon leader, c'est un bon navigateur. Néhémie est l'exemple du bon navigateur. Néhémie savait bien naviguer. Il a fallu qu'il reconstruise les murailles de Jérusalem. Et franchement, c'était un homme qui a su mettre en place des équipes de gens. C'est un excellent exemple au niveau d'un leadership dans l'Ancien Testament. L'histoire de Néhémie nous montre, c'est un homme qui avait une vision. Il n'était pas tout le temps en train de dire « Le Seigneur a dit que… » Non, non, même pas. Il a dit « Voilà, j'ai prié, j'avais ça à cœur, j'ai fait. » Il a commencé à mettre à exécution la vision qu'il avait dans son cœur. Et il a amené des gens. Il a eu beaucoup d'opposition, Néhémie. Au début, les Israélites n'ont pas voulu le croire. Après, ce sont les futurs Samaritains qui ont refusé qui ont fait tout un tas d'opposition. Mais il a mis des équipes en place. Cet homme était très bon en organisation. Et en quelques, je ne sais plus, en moins de 2 mois, je crois, ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons, il a réussi à reconstruire les murailles de Jérusalem. Le pasteur, à ce moment-là, doit être un excellent navigateur. Ne pas perdre le cap. Il doit savoir exactement où il doit aller. Avec son gouvernail, il doit amener le bateau. L'église, c'est comme un grand bateau. Le capitaine, c'est le pasteur. Dieu lui a donné cette casquette de capitaine. Et ce capitaine, il doit savoir où est-ce qu'il emmène son église. Où est-ce qu'il emmène le bateau. C'est lui qui navigue, c'est lui qui donne la direction. Il faut qu'il donne les bonnes directions. Quand ça souffle, très sérieusement, le capitaine doit savoir quoi faire dans la tempête. Quand les eaux sont calmes, il doit savoir quoi faire. Quand apparemment on ne voit rien à l'horizon, il doit savoir quoi faire. C'est lui qui parle et c'est l'équipage qui suit. L'équipage, ce sont toutes ces équipes qui l'aident à réaliser la vision. Et il doit devenir un expert navigateur. S'il ne devient pas un expert navigateur très rapidement, il aura énormément de problèmes. Alors dans cette phase aussi, le pasteur doit commencer à faire des budgets. On va parler finances encore. Dans cette phase de stabilisation, l'argent commence à rentrer. Souvent dans une église, quand on fait un culte, par exemple, on a une salle de 200 personnes, hein, admettons, on est bien placé, on commence à grandir, on voit 100, 150, 180 personnes, 200 personnes. Quand vous arrivez à la fin, quand vous remplissez vraiment, là, vous commencez au niveau finance, vous commencez à bien vous débrouiller. Si vous avez un bon message sur les finances, et là aussi, le pasteur doit faire attention à son message, équilibré. Il doit prêcher sur la prospérité, mais il ne doit pas prêcher, et surtout pas amener des gens qui vont prêcher, donner un dollar et vous allez récolter 100 dollars. Ça, c'est vraiment pervertir le message de la prospérité. Rappelez-vous, Dieu bénit le travail de nos mains. D'accord ? Il faut mettre les chrétiens qui travaillent dur, et ils verront vraiment, en ayant la foi, en confessant, ils verront des promotions, en donnant au Seigneur, ils verront vraiment le Seigneur le bénir d'une façon exceptionnelle. Ça, c'est clair. Et ça, c'est la vraie prospérité. Ça, c'est vraiment la bénédiction. Il y a la différence entre le miracle et la bénédiction. Le miracle, tu en as besoin en temps de crise. C'est-à-dire, tu es dans une crise financière et tu as vraiment besoin que Dieu touche ta situation financière. Ok, donc tu appliques la parole et tu écoutes ce que le Saint-Esprit va dire pour voir ton miracle. La bénédiction, c'est quelque chose qui coule et qui doit augmenter régulièrement. Au début, c'est quelques gouttes d'eau. Ensuite, c'est un filet d'eau. Ensuite, c'est un robinet qui coule à flot. Et ça devient une petite rivière. Et après, ça devient une grande rivière. Mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. Ça se passe avec la fidélité à pratiquer la parole de Dieu. C'est la même chose pour une église. Une église vous dira, waouh, on a prié et un jour on a eu un don de temps. Bon, gloire à Dieu, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas la vraie prospérité de l'église. La vraie prospérité de l'église, c'est quand les brebis ont été tellement enseignées qu'elles pratiquent la parole de Dieu et que les brebis prospèrent. Comme les brebis prospèrent, elles donnent une dîme de plus en plus conséquente, donc l'église prospère. Ce n'est pas compliqué comme principe, c'est très simple. Par contre, ça demande du travail. Financièrement, une église doit bien s'en sortir. Et au bout d'un moment, il doit y avoir des rentrées très régulières. Au début, c'est très irrégulier. Alors, ne vous laissez jamais manipuler par quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui veut essayer de prendre le leadership de l'église. Parce que ça, ça existe aussi. Les gens qui viennent, « Oui, pasteur, je pourrais t'aider. Je pourrais, conditionnel. » Puis, à la bourrondaise, vous savez, il vous fait lire le reste du message. Comme vous savez bien faire. Il faut vraiment l'interprétation des langues. Bon, et en fait, ça c'est vraiment être très pervers. Et un pasteur ne doit jamais céder à cela. Jamais céder à cela. Même si vous êtes dans les plus grands besoins, surtout, ne cédez jamais à du chantage financier. C'est extrêmement dangereux. Un pasteur qui fait ça, il est foutu. Il vend son ministère. Ministère à vendre. Donc dans cette phase de stabilisation, il va falloir voir comment établir des budgets. Parce qu'une église doit, dans cette phase de stabilisation, apprendre à construire une relation avec un banquier. Ah oui, oui, absolument. Vous savez qu'on prête rarement et très difficilement à une association. Les associations, on est très prudent. Parce qu'une association peut très bien marcher et le lendemain se casser la figure. C'est une association. Donc, il va falloir construire une relation avec un banquier. Et construire une relation avec un banquier, c'est d'abord bien gérer les finances. Si le banquier voit qu'il y a 2000 dollars qui rentrent et qu'il y a 2000 dollars qui sortent tous les mois, ça veut dire que vous n'allez pas mettre d'argent de côté. Le banquier, même au 10 ans, ne vous fera pas confiance. Il dira non, tout ce qui rentre, ça sort. Donc vous êtes incapable de mettre de l'argent de côté. Et une église doit mettre de l'argent de côté régulièrement et doit construire une relation avec son banquier. Comme ça, le jour où elle vient voir son banquier, elle dit non, on a déjà mis 150 ou 200 000 dollars, on aurait besoin de 300 ou 400 ou 500 000 dollars, le banquier va vous prêter. Parce qu'il a une relation, il vous connaît, il sait qui vous êtes. Par contre, si vous êtes, vous savez, on fait des appels d'offres à l'extérieur, on va nous donner 200 000 dollars, il n'y a pas de problème, aujourd'hui on a 10 000, mais on veut 300 000, le banquier vous dira non. C'est normal. Donc ça se construit, une relation avec un banquier, ça se construit. Et pour ça, le pasteur doit, s'il n'est pas très bon en finance, il faut qu'il trouve des gens qui soient bons dans le domaine des finances. Un pasteur, il ne peut pas être excellent partout, c'est normal. Donc, il va falloir qu'il trouve des dons autour de lui. Et l'expertise du leadership, c'est d'arriver à trouver les meilleurs dons autour de nous, de gens qui ont des bons cœurs et qui peuvent nous aider. Par exemple, un juriste. Moi, dans mon comité exécutif, aujourd'hui, j'ai un juriste, une juriste, et qui est donc la vice-représentante légale de notre association, Bondi. Et je me suis entouré aussi de quelqu'un qui est spécialisé dans les finances, qui nous fait des bilans, comme une société. Elle nous gère ça comme une boîte, comme une société. Elle fait tous les bilans, elle a mis tout le plan comptable en place, elle a tout mis en place. Et à chaque fois, elle nous prépare les budgets, etc., etc., etc. Nous, on regarde, on dit, on a besoin de ça en tant que pasteur. Avec ma femme, on dit, voilà, on voudrait, cette année, il faudrait à peu près qu'on fasse ça, ça et ça et ça. Et elle nous budgétise tout ça. Et là, dans cette phase de stabilisation, vous devez faire des budgets. Parce que vous devez savoir où est-ce que vous allez financièrement. On ne marche pas par la foi. En tout cas, le banquier ne marchera pas par la foi. Ça veut dire. D'accord ? Ça, le banquier ne marche pas par la foi. Donc lui, il a besoin de chiffres, il a besoin de bilan. Il a besoin que vous lui présentiez les choses. Et si vous faites ça régulièrement et rapidement, bah, au bout d'un moment, il verra, ah, vous avez commencé, vous aviez à la fin de la première année 5 000 $ de créditeurs. La deuxième année, vous en avez 50 ou 25. La troisième, vous en avez 50 ou 70. Vous voyez, et normalement, dans cette phase-là, quasiment tous les ans, on devrait doubler notre budget, à peu près, nos rentrées. Normalement, dans une église qui fonctionne bien, dans les phases de stabilisation, on est dans ces domaines-là. Alors c'est pareil, à la fin de cette phase de stabilisation, il devrait y avoir une option sur l'accès à la propriété. C'est-à-dire, au bout des 10 ans, si vous avez 2 ou 3 ans de phase de démarrage, si vous avez 7 à 8 ans de phase de stabilisation, vous avez à peu près 10 ans d'âge. Au bout de 10 ans, une église devrait accéder à la propriété, normalement. Normalement, elle devrait déjà avoir acheté quelque chose, pas forcément tout payé, qu'on soit d'accord, mais au moins déjà avoir un certain potentiel financier par rapport à sa vision. Quand il y a des églises qui louent pendant 15 ou 20 ans, c'est des églises qui ont des problèmes très sérieux. Ou quelqu'un qui attend qu'il y ait une autre église qui lui fasse un don de 100 000 ou de 200 000 dollars, oubliez ça. Ça doit être un plus, mais jamais vos finances. Vos finances doivent être créées sur place. Si les gens ne donnent pas, c'est qu'ils ont un problème. Ou c'est que vous avez un problème. C'est soit vous, en tant que pasteur, vous êtes incapable de donner un message équilibré sur les finances et la prospérité, parce que Dieu veut que les chrétiens prospèrent, ou soit parce que vos chrétiens n'ont pas compris, ou ce sont des gens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, ce sont des faux convertis, ce sont des gens qui ne comprennent rien à la vision que vous avez, ou vous ne savez peut-être pas transmettre votre vision. Mais je suis désolé, un leader, n'importe où qu'il soit dans le monde, il doit être capable de transmettre sa vision. Et s'il transmet bien sa vision, c'est quelqu'un qui montre qu'il n'aime pas l'argent. Parce que malheureusement, on doit le dire, il y a un certain nombre de gens qui se réclament d'être serviteurs de Dieu et qui ont un problème sérieux avec l'argent. Il y a des gens qui ont vraiment un problème sérieux avec l'argent. Quand il s'agit de parler d'argent, d'un seul coup, ils sont complètement... Il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui se déclenche, qui est extrêmement pervers et dont ils doivent être entièrement guéris. Maintenant, il y a d'autres pasteurs... Non, mais c'est clair. Et on a vraiment des problèmes. Et ils mettent leur ministère par terre, d'ailleurs. Ils font n'importe quoi et boum, c'est par terre. Ils s'achètent une belle Mercedes-Benz alors que l'église est en train de souffrir pour payer un loyer. C'est inacceptable. Ils font n'importe quoi. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Des pasteurs qui vivent au-dessus des moyens de l'église. Et ça, ce n'est pas normal non plus. Le pasteur doit savoir progresser avec la prospérité de son église. Ce qu'il sème, il récoltera. C'est clair. S'il sème de bonnes choses, il sera béni lui-même. C'est un principe qui est simple. Mais ça demande du temps, c'est pas le petit truc, le fast-food, c'est ça le problème. Des gens veulent les églises fast-food où tout va se passer d'un seul coup, parce qu'ils ont entendu parler des DJ Jeff, des gens comme ça, alors tout de suite ils s'imaginent que demain ils vont être là. C'est faux. Même si Dieu t'a parlé, demain tu seras pas là, tu mettras 20 ans à être là, et encore si un jour tu es là. Non mais c'est clair, les gens ne comprennent pas que tout ça représente un travail immense. Ils pensent que c'est simplement en allant prêchant, en allant dire aux gens, donnez, le Seigneur vous donnera 100 fois, et tout. Non, ça c'est n'importe quoi. Et ces gens-là se trompent eux-mêmes. Et trompent les autres aussi. Et ils escroquent les autres. On a vu tout un tas d'escroqueries. Récemment, au Burundi, enfin, il y a quelques années, on a vu des gens vraiment venir. Surtout les Ougandais sont venus nous casser les pieds. Ils escroquaient les gens. Ils repéraient les femmes riches, vous savez, les femmes célibataires, enfin les femmes, pardon, dont les maris ne sont pas convertis, riches. Ils les repéraient et ils allaient chez elles. Les numéros de téléphone à la fin de la réunion, prêchait bien le gars. Hop, il descend, paf. Il repérait toutes les dames avec les petits 4x4 là. Hop. Et en fait, je voudrais votre numéro de téléphone. Dans la semaine, je voudrais faire une petite visite. Mais hop, ils appellent. J'ai une parole du Seigneur pour toi. Il faut tout de suite que j'arrive chez toi. Viens me prendre à tel endroit, là, etc. Hop, la femme se fait avoir. Elle prend le type. Hop, descend à la maison. Le Seigneur me dit qu'il faut que je passe 3 jours en jeûne et prière chez toi. Tout à fait classique. Il sort avec des grandes paroles. Le Seigneur me dit qu'il faut que tu donnes tous tes bijoux à mon ministère. Et on a eu des escroqueries comme ça. Nous, on a été obligés de... On avait invité quelqu'un qui prêchait très bien. Et quand il a commencé à aller visiter certaines personnes, tout de suite, j'ai mis le haut là et on ne l'a jamais réinvité. Tout de suite, ça a été clair. J'ai dit à l'église, ces gens-là, s'il vous plaît, faites attention. Si quelqu'un prend votre numéro de téléphone... Parce qu'il y a des escrocs. Il y a des types qui sont là, qui peuvent prêcher très bien, mais qui dévient. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce qu'après, une fois que les... Vous imaginez, un pasteur amène quelqu'un qui prêche pour son église et cette personne commence à faire ce genre de truc.
C'est le pasteur qui a blâmé après. Parce que les brebis viendront dire « Ah, mais pasteur, tu as amené telle personne, tu sais, et ça a créé, il est venu chez moi, tout ça. » Et le pasteur n'était pas au courant. Mais c'est le pasteur qui lui a donné la parole. Donc c'est le pasteur qui est responsable, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment un problème de ce côté-là. Il faut vraiment faire attention. Mais un pasteur qui gère bien, qui est honnête, qui est sincère, c'est un pasteur qui sera béni. Au début, il aura la vie dure, c'est sûr. Mais au bout de quelques années, quand il va percer, il sera largement béni. Et il n'aura pas de problème. L'argent n'est pas un problème pour Dieu. C'est le cœur qui est un problème pour beaucoup de gens. Un bon serviteur qui a un bon cœur, tôt ou tard, il sera largement béni financièrement. Il n'aura pas de problème. Ça, ce n'est pas, c'est pas le problème de Dieu. Mais il ne faut pas qu'il passe par les moyens du monde. Alors, un pasteur doit faire attention. S'il y a des crédits à prendre, il doit s'entourer des bonnes personnes. Si vous prenez un crédit pour un bâtiment, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre plus de 20, 30%, voire 35% de votre budget annuel. Et ne pas spéculer sur les années suivantes. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui parfois se mettent des crédits sur le dos en disant « L'église a doublé l'année dernière, donc l'année prochaine l'église va doubler, donc on peut prendre tant. » Boum. Et si l'église ne double pas, pouf, tu te retrouves avec des ennuis financiers. Très grave. Donc, le pasteur doit être un expert dans la gestion. S'il a des difficultés, il doit s'entourer des bonnes personnes, des bons conseillers qui ont fait des études dans le domaine. C'est là où, justement, il prend des dons dans son église. Il doit dire, voilà, telle et telle personne peut m'aider, etc., etc. Il faut que l'épouse du pasteur aussi soit dans le coup, c'est-à-dire soit dans les comités où il y a des décisions financières qui soient prises. Ça, c'est très important. Il faut qu'elle parle. Des fois, nos épouses ont un regard un peu différent de nous-mêmes. Ils peuvent largement nous aider, des fois, dans certains trucs, en disant, non, tu sais, fais attention quand même, parce qu'on ne doit pas faire telle ou telle chose. Alors maintenant, la croissance numérique dans ces temps-là. Croissance numérique, c'est important. Le pasteur, souvent, il est mesuré au nombre de personnes qui viennent dans son église le dimanche. Petit pasteur, petit nombre. Grand pasteur, grand nombre, paraît-il. Bon, alors, je vous ai dit, au bon moment, les visiteurs au bon moment. Si vous avez besoin d'enseignement, faites venir un enseignant. S'il y a un temps où il y a une croissance au niveau de l'évangélisation, faites venir un bon évangéliste et motivez l'église. Préparez, motivez tout. Et financez tout aussi. Très important. Ensuite, deuxième point, à part les visiteurs, deuxième point, institut biblique. Important d'avoir un institut biblique. Si vous avez une église, un certain nombre de gens, mettez un institut biblique au sein de votre église. Très important. Moi, j'ai beaucoup étudié les églises locales. Je m'aperçois que les bonnes églises locales ont toutes un institut biblique à leur porte, qui fait partie de leur ministère. Parce que l'institut biblique vous amènera des ressources. Vous amènera des gens qui parlent le même langage que vous. Vous amènera des gens qui sont stables. Parce qu'à l'église, il y a des thèmes parfois qu'on ne peut pas donner. Ensuite, il y a une chose à laquelle le pasteur doit faire très attention dans ces temps de croissance, c'est de ne pas faire des messages pour attirer des gens. L'objectif n'est pas d'attirer des gens. Et souvent, les pasteurs marchent avec des modes. Quand on parle de finances, d'un seul coup, le pasteur ne va parler que de finances pendant 2 ou 3 ans dans son église. Ça, c'est pas bon. Les finances, on doit en parler, la prospérité, on doit en parler, mais c'est pas le seul thème. Donc, il fasse attention. Des fois, il y a des modes comme ça. Alors, il y a eu des mouvements d'esprit et les gens, d'un seul coup, ne font que parler du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit a une place immense, oui. Mais ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, il y a aussi la foi. Parce que les gens deviennent après ultra émotionnels. Et quand ils sont dans les émotions uniquement, bah après, vous allez perdre la moitié de votre église. Parce qu'ils font n'importe quoi, et ça s'est vu aussi. Donc, ne fonctionnez pas avec des modes, avec des choses où seulement vous donnez un seul message. Ou d'un seul coup, le pasteur ne veut plus parler du péché parce que le péché, ce n'est pas très populaire en ce moment. Si on parle du péché, ah non. La sanctification a sa place. Et il doit toujours garder un message au niveau de la sanctification. Rappelez-vous, l'église est un hôpital. Alors, là, toujours se focaliser sur les pécheurs perdus qui ont besoin de Christ. Une église qui se focalise uniquement sur les chrétiens n'aura que des chrétiens qui vont tourner en rond au bout d'un moment. Toujours, régulièrement, on doit se focaliser comment gagner des âmes à Christ. Parce que ça, c'est votre sang frais, votre sang nouveau. Ce n'est pas parce que vous arrivez à un certain nombre que maintenant on ne prêche qu'aux chrétiens. Les pasteurs qui font ça, ce sont des pasteurs qui n'amènent jamais de personnes à se donner au Seigneur. Ils ne sont pas orientés à l'évangélisation. Si vous êtes plutôt pasteur et enseignant, amenez des évangélistes de temps en temps dans votre église et secouez tout le monde. Et que tout le monde se prépare pour en vue d'inviter des personnes qui ne sont pas converties. Alors, le pasteur, dans ces moments-là, régulièrement, il doit être dans la vision. Il doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut que vous sachiez que, en tant que leader, le Saint-Esprit nous amène à faire différentes choses dans notre église. C'est-à-dire, il y a des moments, où Dieu parle spécifiquement au corps de Christ d'une manière générale. Il y a des années, par exemple, si on était dans les années 1970-80, début des années 80, Dieu a restauré vraiment la louange et l'adoration dans l'église de Dieu. Régulièrement, c'était des gens qui chantaient assis avec des recueils de chants. Hein. On avait les ailes de la foi en français, où les gens étaient là, oh, numéro 145, les gens chantaient 145. Puis après, nous allons entonner le cantique numéro 110, donc nous entonnions le cantique numéro 110. Et les gens étaient assis, tristes et malheureux, entre guillemets. Ils n'avaient aucune liberté dans la présence de Dieu. Bon, donc il y avait ce message-là, Dieu l'a largement restauré. Ensuite, Dieu a beaucoup restauré l'aspect de l'enseignement de la parole de Dieu, dans les années 80 particulièrement. Il y a eu beaucoup d'enseignements de la parole et surtout le message de la foi. Et ça, c'est un message qu'il faut absolument enseigner, prêcher régulièrement. Nous en avons absolument besoin. Dans ces dernières années, dans les années 90, il y a eu beaucoup sur le Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit. Ça aussi, c'était quelque chose de très important qu'il faut aussi garder. Maintenant, on parle beaucoup du leader et du caractère du leader. Et là aussi, il faut être régulièrement dans cet aspect de construire le caractère dans le corps de Christ, afin que les gens ne vivent pas seulement de la parole et de l'esprit, mais que leur caractère aussi soit forgé. Parce que sinon, église, dans les histoires de délivrance à outrance, moindre truc, c'est un démon, c'est pas de ma faute, c'est un démon, c'est pas de ma faute, c'est le diable qui m'a fait faire ça, etc., etc. Et les gens sont complètement irresponsables. Et quand les gens sont irresponsables, eh ben, la chair va dans tous les sens. Et nous avons des chrétiens qui sont complètement dans le compromis, et ils viennent prier, et le dimanche matin, le lundi matin, ils recommencent à faire tout et n'importe quoi, à vivre comme des païens, dans le compromis. Et ça, c'est une catastrophe, qu'on voit d'ailleurs dans certaines églises, et certaines églises qui ont beaucoup de gens, des églises où on loue Dieu, entre guillemets, où on fait de la belle musique ultra-moderne, où tout a l'air de bien marcher, mais quand on parle avec les gens sont dans un compromis épouvantable. Mais ça marche bien parce que ça plaît, et le pasteur est dans les choses qui plaît, plutôt que dans les choses de Dieu. Et le pasteur doit souvent écouter le Seigneur. Moi, je prie souvent, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ton église actuellement? Et je cherche à savoir, et je m'inspire d'homme de Dieu. Parce que Dieu bouge. Et le pasteur, vous pouvez très bien avoir une croissance, expérimenter une grande croissance pendant un temps, et stagner complètement après, et même diminuer au niveau du nombre de personnes qui viennent, parce que vous n'êtes pas là où, dans ce que Dieu est en train de faire au moment où il est en train de le faire. Donc régulièrement, vous devez être à l'écoute, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans son corps? Qu'est-ce que Dieu dit à son Église, d'une manière générale? Et ça, souvent les grands leaders, c'est eux qui initient les choses, c'est normal, ou des gens qui partent de rien, et d'un seul coup, Dieu leur parle, et c'est ces gens-là, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Et ça, on doit l'amener dans l'Église pour qu'on ait régulièrement quelque chose de frais. Alors, à ce moment-là, à la fin de cette phase, nous avons, à la fin de la phase de stabilisation, l'Église, je dirais, commence à être à l'aise, hein, elle a pris de l'altitude. Vous avez des centaines et des centaines de personnes dans votre Église, les départements commencent à être bien mis, hein, et tout le monde est à l'aise. On sent que l'Église commence à, je dirais, avoir un certain poids, dirions-nous. Elle est plus facilement déracinable, elle est stable, la croissance est régulière au niveau des nombres, au niveau spirituel, hein, croissance verticale, croissance horizontale. Les départements de l'Église commencent à être pas mal du tout. Votre Église commence à avoir une réputation importante aux yeux du corps de Christ d'une manière générale. Hein, et le monde commence à dire, tiens, ces gens-là, apparemment, ils ont l'air de faire quelque chose de pas mal. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Donc, vous avez réussi à amener votre Église dans l'altitude. Alors, troisième phase, c'est la phase d'établissement. J'ai encore trois phases à vous donner, mais elles sont plus courtes quand même. C'est beaucoup plus court.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.